Exode au chapitre 15 ce matin. Et j'aimerais que on considère ensemble, vous savez, le thème du mois, c'est la sainteté de Dieu. Le thème de l'année, c'est « Voici ton Dieu ». Donc, pendant toute l'année, on a considéré différents attributs de Dieu. Et donc, depuis le début novembre, la semaine passée, on a fait notre premier message sur le thème de la sainteté de Dieu. Aujourd'hui, on va considérer la sainteté de Dieu dans l'Ancien Testament. Et comme j'ai de la suite dans les idées, la semaine prochaine, Dieu voulant, si le Seigneur n'est pas revenu, on va considérer la sainteté de Dieu dans le Nouveau Testament. Et évidemment, on sait que c'est partout, mais on va voir des exemples de l'Ancien Testament aujourd'hui. On est dans Exode 15. On va juste lire un verset pour s'introduire. Exode 15, ceux qui connaissent, qui peut-être vous l'avez lu récemment, savez-vous c'est quoi? C'est un cantique de Moïse, un cantique de délivrance. Et donc, on va juste lire le verset 11 parce que ça nous parle de la sainteté de Dieu. Parce qu'on lit pas mal d'autres passages aujourd'hui, plus étendus. Celui-là, c'est juste comme introduction que je veux lire. Et vous allez voir pourquoi. Donc, ici, au beau milieu du cantique de Moïse, ça dit « Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? » On va prier. Ah, Éternel, on te remercie pour le fait que tu es magnifique en sainteté. Tu es incomparable, grandiose, merveilleux. On veut vraiment te louer, t'adorer. Dans ce temps qu'on prend pour s'arrêter avec ta divine parole. Ô Saint-Esprit du Dieu vivant, enseigne-nous, transforme-nous, exalte ton grand nom au milieu de nous. Oui, Seigneur, on vient trouver notre refuge dans ton grand nom. Et Seigneur, tu es notre confiance, tu es notre assurance, tu es notre appui, notre refuge, notre vie. Merci, Seigneur, qu'on peut considérer ce que tu as à nous dire ce matin. Que chacun de tes enfants ici entende ta voix et qu'ils te suivent. Et que ceux qui ne sont pas encore de ton troupeau, ceux qui ne sont pas encore rachetés par le sang de Christ, aujourd'hui puissent voir la croix, voir leur péché et comment tout se règle à la croix du calvaire. Tout a été pourvu, réglé une fois pour toutes. Et qu'ils mettent leur confiance dans le sacrifice de Christ. On prie, Seigneur, toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. Alors, ici dans Exode 15, on a, vous savez, la semaine passée, on a vu la première référence au mot « saint » dans la Bible. C'est dans le chapitre 3, verset 5. Mais ça parlait de la terre sainte. Ici, c'est la première référence qui réfère proprement à Dieu comme étant saint dans la Bible. C'est dans ce cantique de Moïse. Parce que, comme vous l'avez souligné la semaine passée, souvent le mot « saint », c'est surprenant, mais quand on regarde dans la Bible, ça réfère surtout à des choses. Ben, ou tu sais, comme la terre promise, mais aussi les choses saintes, comme les sacrifices, le tabernacle et tout ce qui l'entoure, le lieu saint, le lieu très saint. Mais ici, ça nous parle de Dieu. Ça dit qu'il est magnifique en sainteté. Et donc, aujourd'hui, j'aimerais qu'on se penche sur la question de la sainteté de Dieu à travers des textes bien importants et révélateurs de l'Ancien Testament. Toute la Bible est la parole de Dieu. Il y a un seul Dieu qui est le même dans l'Ancien et dans le Nouveau, mais Dieu se révèle progressivement. Il s'est révélé pleinement à son Fils dans le Nouveau Testament. Ça change pas mal d'affaires. Donc là, aujourd'hui, on va considérer avec l'Ancien Testament et on va le voir à travers les situations, les circonstances, des exemples de personnes qui ont été directement confrontées à la sainteté de Dieu. Puis comme on dit en bon québécois, ça clash. Quand un pécheur comme nous est face à la sainteté de Dieu, ça fait un choc. Et donc, vous allez le voir, les trois exemples qu'on va voir, c'est ce qui est arrivé. Mais avant d'aller proprement avec les exemples que je veux vous donner, je veux juste donner des petits éléments de définition. Je ne l'avais pas fait précisément la semaine passée. Juste en bref, là, pour s'introduire à la sainteté de Dieu. Il y a trois choses importantes à comprendre quand on parle de la sainteté de Dieu. D'abord, la sainteté de Dieu réfère au fait qu'il est séparé, distinct. Okay? Le mot « saint », ça vient du mot pour dire « couper » ou « couper au-dessus ». C'est ça l'idée ici que C'est au-dessus, c'est supérieur, c'est coupé, c'est séparé. OK? Ce que ça communique, c'est que Dieu est unique. Il est en dehors de ce que l'humain, de ce qu'on connaît, de la pensée humaine, du monde. Tu sais, Dieu est transcendant. Il est au-dessus de sa création. Il est incomparable. C'est pour ça qu'il dit, tu es magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Qui est-ce qui est de même? Il n'y en a pas comme lui. Dieu est unique. C'est ça l'idée de la sainteté d'abord. Ensuite, la sainteté aussi implique qu'il est moralement pur, impeccable, sans péché. Et on en a parlé un petit peu dans le dernier message, que tout ce que Dieu touche est saint. C'est pour ça qu'il y a tellement de choses, ça dit que c'est le lieu saint, c'est la terre sainte, parce que tout ce qui est en relation rédemptive avec Dieu, ça devient saint. OK? Parce que Dieu est saint. Dieu a mis ces choses à part, les a sanctifiées pour son usage. C'est pour ça qu'elles sont pures. Et elles sont des reflets de qui Dieu est. Dieu est pur. Dieu est sanctifié à part complètement. D'ailleurs, juste un exemple de ça, vous n'avez pas besoin de tourner là, mais je ne sais pas si vous avez lu dernièrement le psaume 24, mais il y a la question qui a été posée. Qui peut monter à la montagne de l'Éternel? C'est qui en est digne? Puis là, la question, puis là, on regarde, ouais, c'est qui? La réponse, c'est Jésus-Christ, parce que vous savez, le psaume 24, c'est un psaume messianique sur Christ, le roi qui est digne, le roi qui règne. Et pour nous, en lui, en Jésus-Christ, on est sanctifié, on peut aussi aller dans la présence de Dieu. Pas parce qu'on le mérite, mais parce qu'on a été sanctifié. Tout ce que Dieu touche devient pur. Si vous avez été touché votre vie par Jésus-Christ, par son sacrifice, si son sang est appliqué sur votre vie, vous pouvez aller dans la présence de Dieu parce que vous avez été rendu pur par le sang de Christ. Vous savez, même un autre passage qui nous parle de ça, Habacuc, le prophète perplexe, qui a demandé, voyons donc, Dieu, tu vas prendre une nation aussi méchante que Babylone pour châtier ton peuple d'Israël, qui est ton peuple élu, ton peuple saint. Puis là, dans le chapitre 1, verset 13, il dit, Dieu, tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Donc, on voit ici, c'est ça le concept, la sainteté, ça nous réfère non seulement au fait que Dieu est séparé, mais aussi qu'il est pur, il est sans péché, il n'y a pas de péché en lui, aucun. Et une troisième chose à comprendre sur la sainteté de Dieu, c'est que cette sainteté est en relation avec chacun des aspects de sa nature et de son caractère. Autrement dit, tout ce qui est de Dieu est saint et à part. Okay? Tous ses attributs, je l'avais dit avant, la sainteté, c'est l'attribut englobant de Dieu. On parle des attributs de Dieu, puis on peut tout le temps dire qu'ils sont saints. OK? L'amour de Dieu, il est saint, il est incomparable. Il n'y a pas d'amour de même dans le monde. La justice de Dieu, sa bonté, tout ce qui est au sujet de Dieu est unique. Tout son caractère, tout ce qui définit Dieu est saint, unique, à part, impeccable, sans péché. OK? Ça, c'était juste pour clarifier alors qu'on s'introduit au sujet. D'ailleurs, juste un petit dernier mot là-dessus sur « Rien peut égaler Dieu » dans Ésaïe. Si vous commencez à lire à partir du chapitre 40, okay, vous ferez par vous-même la lecture, là. Mais surtout dans les chapitres 40, le 40, dans les chiffres 40 d'Ésaïe, on voit ça beaucoup. Comment Dieu dit « Vous ne pouvez pas me comparer au Dieu des autres nations ». Moi seul, l'Éternel, j'ai prédit ces choses. Moi seul, l'Éternel, je suis comme ça. Dieu proclame sa sainteté et dit, il n'y en a pas comme moi. Fait que ça, c'est Ésaïe 40, dès le début là, du chapitre 40, mais 46.5, 48.2. Vous avez plusieurs références qui vraiment sont directement en lien avec ça. Donc, on va commencer maintenant avec trois illustrations. Puis là, Philippe, c'est mon petit gars que je fais mes jokes avec. Sors ton papier et ton crayon, puis si ton papier est sur ce sens-là, vire-le, parce que là, je vais dire un long mot compliqué, scientifique, trois illustrations vétérotestamentaires. C'est exactement aussi long qu'anticonstitutionnellement. Ça veut juste dire Ancien Testament. Trois illustrations vétérotestamentaires de la sainteté de Dieu. Le premier, c'est dans Nombre 20. Mais avec moi, dans Nombre 20, on va voir la sainteté de Dieu dans la vie de Moïse. Notre cher Moïse. Vous savez que Moïse n'a pas tout le temps eu facile avec le peuple d'Israël. Et ici, on a un exemple. Mais notre pauvre Moïse, là, c'est lui qui l'a échappé, comme on dit. Vous connaissez l'exemple, on va le lire. Versets 1 à 13. Nombre 20, verset 1. Toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Tsin le premier mois, et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que mourut Marie et qu'elle fut enterrée. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée, et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, « Que n'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ce méchant lieu? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse semer. Il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni de l'eau à boire. » Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher. Il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. » Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse dit, « Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? » Puis Moïse leva la main et frappa deux fois le rocher avec sa verge et sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. » Ce sont les eaux de Meriba où les enfants d'Israël contestèrent avec l'Éternel qui fut sanctifié en eux. Donc ici, on a un texte qui est connu, les fameux événements de Kadès. Et c'est un des nombreux exemples où est-ce qu'on voit, on l'a vu dès le début du chapitre, Israël a le courrel encore. Pas content, ils se plaignent, puis tout ça, puis sont rebelles. Sont rebelles face à leur leader, Moïse et Aaron, mais évidemment, c'est l'expression de leur rébellion envers l'Éternel. Mais là, c'est Moïse qui, comme on dit en bon québécois, a perdu les pédales. OK? Puis il y en a souvent les conséquences, parce que la suite de ça, on n'ira pas voir, mais dans le chapitre 27, ça lui dit qu'à cause de ça, il n'est pas rentré dans la terre promise. Bon, il l'a dit ici, c'est pas vous qui allez le faire rentrer, mais Dieu l'a confirmé, puis bon. Donc, qu'est-ce qui arrive ici? Kadès, d'abord, c'est intéressant de savoir, ça veut dire saint, le mot Kadès. Et je pense que c'est pas un hasard, parce que c'est à cette place précise que Dieu voulait donner l'eau du rocher. Et ce rocher qui les suivait était Christ. On apprend dans 1 Corinthiens 10, 4. Et donc, c'est un endroit où Dieu voulait être montré comme saint. Dieu voulait être montré comme unique. Dieu voulait montrer quelque chose de spécial à son sujet. Comment il est incomparable. Il voulait que les yeux du peuple puissent reconnaître ce Dieu unique. Et ici, il y a une symbolique. Vous savez, c'est la deuxième fois ici que l'eau sort du rocher. La première, Moïse avait été ordonné par l'Éternel, frappe le rocher. Jésus a été frappé pour nous. Jésus, lorsqu'il était à la croix, il a été frappé de la colère. Donc, la première fois que l'eau est sortie du rocher, c'est un symbole de la croix. Donc, il a frappé. Mais ici, c'est un symbole de la résurrection. Il ne devait pas frapper, il devait parler. Hein, la résurrection, sur la parole de Dieu, Jésus a ressuscité Lazare. Et ici, c'est un symbole de pas besoin de frapper, la colère était passée. Maintenant, c'était à la parole de Dieu où est-ce que l'eau de vie allait jaillir. C'est vraiment une image, un symbole de la résurrection de Christ. Et, bon, je ne suis pas sûr que Moïse comprenait tout ça, il avait juste à obéir à Dieu, mais il a brisé le symbole complètement. Mais ce que je veux amener, c'est que Dieu voulait se sanctifier. Dieu voulait montrer quelque chose avec ça, plus que juste avec le peuple qui est là. Même pour nous qui sommes à la fin des temps encore, la leçon était là. Parce que Dieu voulait se sanctifier comme ça, comme le Dieu de la croix, mais aussi le Dieu de la résurrection, le Dieu de la vie, le Dieu qui, ayant conquéri la mort, qui a été frappé la première fois, maintenant donne la vie, l'eau de vie qui sort, puis Christ ressuscité donne la vie à quiconque le reçoit. C'est ça que Dieu voulait montrer ici. Puis c'est comme ça qu'il était sanctifié. Dieu. Oh, il n'y a pas d'autre Dieu comme ça. Il n'y a jamais eu une affaire de main qui a été pensée auparavant. Les dieux des Cananéens, les dieux de ce monde, n'ont pas des plans comme ça. Dieu était sanctifié, il voulait montrer, c'est unique ce qui est là. D'ailleurs, il n'y avait pas de rocher non plus qui suivait les autres peuples. Tout ça était complètement unique. Le rocher qui lui suivait était Christ. Je trouve ça un peu spécial, pareil. Mais ça nous dit que l'ange de l'Éternel était là, il les suivait, puis c'était... il était adoré comme étant Dieu. Je crois que l'ange de l'Éternel est une pré-incarnation de Christ. C'est pas incarnation dans le sens que il a pas pris un corps humain, mais c'est une théophanie qu'on appelle une révélation, une démonstration dans le monde physique, une forme humaine de Dieu. Et s'il faisait une forme humaine, pourquoi il ne pouvait pas faire sous une forme d'un rocher? Je veux dire, pour Dieu, il n'y a rien là, tu sais.
Théophanie, excusez-moi.
Ouais. Donc, ici, si on s'arrête sur ce qui arrive, je vous ai expliqué que Dieu voulait être sanctifié, mais lorsque Dieu reprend, il reprend Moïse et Aaron, au verset 12, c'est le verset clé, l'Éternel, bon là, il y a les événements qui arrivent, il les traite de rebelles, il frappe, ok, bon. Et là, l'Éternel dit à Moïse et Aaron, « Parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. » OK, le verdict de Dieu, c'est pas « Ah, Moïse, tu t'es mis en colère, tu l'as échappé. » Non, il a dit « Parce que tu n'as pas cru. » Ici, le problème, c'était l'incrédulité. Il n'a pas cru ce que Dieu avait dit pour agir selon ce qu'il avait dit. Et cette incrédulité-là s'est exprimée par sa colère, s'est exprimée par la désobéissance. Mais savez-vous quoi, quand on regarde à la base son péché, là, son incrédulité, c'est un manque de révérence envers Dieu. Je vous explique. La colère de Moïse. Puis, OK, moi, j'avais été à Moïse, ça fait longtemps que je m'aurais mis en colère bien avant eux. Je veux dire, Moïse était l'homme le plus patient. Tu sais, c'était pas évident de diriger un peuple comme Israël. OK, mais là, il s'est mis en colère. Sa colère a pris le dessus sur la révérence et la crainte qu'il devait avoir de Dieu. C'est ça qui est arrivé. Le peuple et l'irritation qu'il avait, ça l'a pris le dessus. Les sentiments qui bouillaient, les passions qui étaient dans ses membres, parce que c'était un homme de la même nature que nous, ont pris le dessus sur la révérence et la crainte qu'il devait avoir de l'Éternel. Maintenant, soyons honnêtes, quand on a un passage de même, vous allez voir, c'est la même chose pour le prochain passage qu'on va lire, on est biaisé puis on se dit, « Ouais, Dieu est allé un peu fort, non? » Moi, j'aurais dit, ben, voilà en punition peut-être pendant 2 semaines, mais OK, tu peux rentrer pareil dans le pays, là. Hey, t'as eu assez de misère avec eux autres. Non, boum, Dieu dit, c'est fini, puis... Je sais pas pour vous, mais moi, comme humain, je trouve ça sévère, puis... Il me semble que je sympathise plus avec Moïse qu'avec Dieu. Puis je veux pas être irrévérencieux en disant ça, mais c'est pour montrer que c'est notre nature pécheresse qui est comme ça. OK? Parce que... On n'est pas révérents, nous autres, non plus, comme on devrait être envers Dieu. Puis je pense que c'est un des points que Dieu veut nous montrer avec ça. Puis vous allez voir le prochain passage. Je vous le dis, ça va être avec Uza, là. Puis vous savez, on a un peu les mêmes sentiments. On n'est pas révérent en Dieu, envers Dieu nous-mêmes parce qu'on ne prend pas ça au sérieux, la sainteté de Dieu. Et cette première illustration qu'on regarde, bien, ça nous montre Dieu, lui, il prend ça au sérieux. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça? Plus on est saisi par la sainteté de Dieu, plus notre révérence, notre crainte pour lui va augmenter. Il y a une corrélation directe. Et je vous pose la question, est-ce que l'irrévérence qu'on voit dans la chrétienté en général de nos jours est un signe de bonne santé, puis qu'il y a de la crainte de l'Éternel, puis que la sainteté de Dieu, que Dieu est sanctifié au milieu de nous comme il devrait? Je vous laisse répondre, puis je pense que poser la question, c'est déjà d'y répondre.
Mais qu'est-ce que vous dites par révérent après? Comme vous dites, c'est de s'être présentable devant Dieu, c'est ça?
Révérent? La révérence, c'est donner à Dieu le respect, l'hommage, l'honneur qui lui est dû. Et ici, quand ça dit, Dieu voulait être sanctifié au milieu d'eux. Vous voyez, les deux versets que je vous dis, c'est pas un hasard. Dieu a travaillé avec ça cette semaine, avec cette idée-là. Au milieu d'eux, hein, comme dans Sophonie, je laisserai au milieu d'eux un peuple humble et petit. Et l'Éternel est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Ici, Dieu voulait au milieu d'eux. C'est-à-dire, Dieu ne veut pas être en périphérie, puis qui est comme un instrument dont on sent quand on en a besoin. Dieu va être au milieu, au centre. Quand Dieu veut être sanctifié, là, il veut pas être accentué. Ah, Dieu, c'est donc bien quelqu'un qui est bon pour aider, puis il est bon là sur le côté, puis... Non, Dieu, quand il veut être sanctifié, il veut être montré comme celui qui est au milieu, qui est central, puis je veux dire, quand Dieu est là où il devrait être, les hommes, c'est nous qui tombons sur ses côtés, puis qui prennent plus la place. C'est ça l'idée d'être sanctifié. Et c'est ça le problème. Quand on dit « a manqué de révérence, a manqué de foi », c'est lui qui a pris la place, Moïse. Parce que là, il s'est choqué, il veut rebelle. C'est qui s'est mis de l'avant? C'est qui a été au milieu d'eux? C'est Moïse! Y avait-tu raison? Ben, humainement parlant, oui, mais c'était ça son péché. Il s'est mis là où Dieu devait être. Maintenant, est-ce que ça veut dire que si on veut honorer la sainteté de Dieu, avoir de la révérence pour lui, ça veut dire qu'on doit être formel et mort? Non, parce que ça, c'est un piège. On va en parler plus dans le prochain point. Mais l'idée, c'est de mettre Dieu de l'avant par opposition à mettre l'homme de l'avant. Une chrétienté christocentrique et non pas anthropocentrique. Une chrétienté centrée sur Christ, son œuvre, sa personne, qui il nous révèle pleinement Dieu. Tout ce qu'on peut connaître de Dieu, on le connaît par Jésus-Christ, à travers le ministère du Saint-Esprit, et non pas l'homme. Donc, c'est la première leçon qu'on peut avoir avec cette illustration dans la vie de Moïse. Maintenant, ça va dans 2 Samuel, au chapitre 6, et on va voir la sainteté de Dieu dans la vie d'Uza. Puis je dis Uza parce que c'est lui qui a touché l'arche, puis qui a été frappé. Mais on pourrait dire aussi dans la vie de David, parce que ça a été une grande leçon pour David, puis c'est lui par la suite qui a agi, puis tout ça. Mais pour se rappeler l'histoire, j'aimerais qu'on relise les événements dans 2 Samuel chapitre 6. On va lire les 11 premiers versets. Donc 2 Samuel 6, 1. David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David avec les 30 000 hommes... J'ai sauté une ligne. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Baal-Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline, Uza et Achjo, fils d'Abinadab, conduisait le char neuf et l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche et Achjo allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments, de bois, de cyprès, des harpes, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Pérets Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là et dit, « Comment l'arche de l'Éternel entrera-t-elle chez moi? » Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel dans la cité de David et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Edom de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Edom et l'Éternel bénit la maison d'Obed-Edom et toute sa maison. Maintenant, ici, il faut comprendre un peu ce qui arrive. L'arche de l'Éternel est le symbole de la présence de Dieu au milieu de son peuple. C'est un objet saint, très saint, qui est dans l'endroit le plus saint du culte d'adoration de l'Éternel. Vous savez, il y avait toute l'attente d'assignation, puis après ça, avec le temple, il y avait le lieu saint, puis il y avait le lieu très saint, avec le voile, une fois par année seulement, le souverain sacrificateur allait pour verser du sang sur cette fameuse arche. Et donc, c'est vraiment sacré. Là. On parle ici de quelque chose de hautement symbolique, et ça symbolise la présence de Dieu au milieu de son peuple. En fait, c'est tellement saint, l'arche de l'Alliance, que personne n'avait le droit d'y toucher. Mais le souverain sacrificateur, là, il versait du sang, mais il ne touchait pas. Les seuls qui pouvaient toucher, c'était pas n'importe comment, c'était les fils de Kehathite pour la transporter d'une façon bien spécifique. Il y avait du bois d'acacia qui passait là, dans les trous. Puis c'était vraiment très, très spécifique la façon qu'il devait transporter cette arche. Bon. Maintenant, le texte qu'on vient de lire nous montre que l'arche a été transportée. Là, d'abord, il y avait un problème avec ça. Parce qu'elle avait été capturée par les Philistins. Parce qu'elle avait été amenée sur le champ de bataille. Ça, c'était pas supposé, là. Les Israélites avaient traité l'arche de l'Alliance comme un porte-bonheur. Comme les nations qui amenaient leurs dieux, là, puis ils amenaient ça sur le champ de bataille pour essayer de les faire gagner. Les Israélites avaient fait ça, il n'y avait rien. L'arche n'était pas supposée de sortir de même sur le champ de bataille, là. Elle était supposée d'être dans le lieu très saint. OK? Fait que déjà, en partant, il y avait une faute là, mais bon. Mais là, il y avait une procession, puis c'était une procession joyeuse, là. Il y a les instruments de musique, puis là, tout le monde se réjouissait de pouvoir ramener, parce que là, justement, là, ils ramenaient l'arche qui avait été chez les ennemis du peuple de Dieu. Mais David et le peuple avaient oublié à quel point c'est saint. L'arche, elle est sainte. Ils lui ont pas voué le respect, la révérence qui lui était due comme étant un objet qui représente la présence de Dieu même. Autrement dit, ils l'ont traité comme les nations traitent leur Dieu. Dieu, il y a un problème pour Dieu avec ça, là. Dieu ne peut pas être égalé à quelqu'un qui est comme un porte-bonheur, puis tout ça. Comprenez-vous? Il y avait un grand problème avec ça. OK, bon. Et là, quand on voit, on l'a vu, hein, la réaction de David, probablement la même que nous, on aurait eue, parce qu'il est de la même nature que nous. Il n'était pas content. La Bible nous dit qu'il était irrité envers l'Éternel. Mais on n'a pas tout lu ça, là, mais si on regarde la suite des choses, David est allé dans la parole et dans la présence de Dieu. Puis là, il a donné raison à Dieu. Parce qu'il s'est rendu compte, oh, c'est pas Dieu qui est trop savant, c'est moi qui n'ai pas été révérent envers Dieu. Donc, il s'est tourné vers Dieu et qui lui trouvait ça peut-être initialement comme nous autres, là, que Dieu est allé peut-être un peu trop fort et s'est rendu compte de la gravité du péché devant l'Éternel. Autrement dit, il est sorti de la pensée humaine, de la logique de dire, ben voyons, Uzza, c'est pas de sa faute, c'est pas si pire. Puis il était sincère, Uzza, puis Uzza voulait faire ce qui était bien pour se rendre compte, oh, mais Dieu avait dit que c'est l'arche qui représente sa présence au milieu du peuple, puis ça devait pas être transporté n'importe quoi, puis c'est solennel, puis c'est pas n'importe quoi. Comprenez-vous? Il s'est rendu compte de la gravité de ce qui arrivait à la lumière de la parole, puis en s'arrêtant devant l'Éternel avec ça. Il s'est rendu compte qu'il n'avait pas traité Dieu, parce que c'était l'arche, mais finalement, traité Dieu avec le respect, la révérence et la crainte qui lui est due. De la façon qu'il a traité cette arche. Et donc, ça fait deux fois que je parle d'irrévérence, je n'ai parlé dans le premier point. L'irrévérence, c'est grave, même si les motifs sont sincères. C'est ça la leçon ici. Tout le monde était sincère. Les gens aimaient l'Éternel. Ils voulaient faire ce qui était mieux. Mais la sincérité, ça ne compense pas pour la désobéissance, l'irrévérence. On entend ça souvent, n'est-ce pas? Ah, ils sont sincères. On peut être sincère et sincèrement dans l'erreur. L'important, c'est de faire ce qui plaît à Dieu. Et donc, je pense que c'est la grande leçon de cette histoire avec Uzza. Et on doit se rappeler que dans notre adoration, n'est-ce pas, dans la Bible, c'est intéressant que, tu sais, la Bible, ça nous dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous savez, c'est quoi le mot qui est utilisé? Je vous dis en grec, on entend ça des fois, naxos. Est-ce qu'on l'entend? Les affaires, des fois, on entend ce mot-là, mais ça veut dire, c'est le mot pour le Saint des Saints. Okay? Il y avait un mot pour temple, qui est juste le grand bâtiment, tout ça. Puis il y avait un autre mot qui référait à là où est la présence de Dieu, le Saint des Saints. Mais quand la Bible dit que vous êtes le temple de Dieu, ça ne dit pas comme, c'est pas pour référer au grand temple, mais là où la présence de Dieu même est. Et donc, il y a une révérence qui est rattachée à ça. La Bible nous dit qu'on est le temple du Saint-Esprit, puis elle nous dit aussi qu'on nos corps, on les voue, on les offre en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Comment qu'on fait ça? Lorsque, comme avec ici David, on va dans la présence de Dieu, puis dans la parole de Dieu, puis là on est transformé par le renouvellement de l'intelligence, puis là on comprend que la volonté de Dieu, elle est bonne, elle est agréable et elle est parfaite. Dieu nous enseigne ces choses lorsqu'on a une relation vivante, intime, réelle avec lui. C'est pour ça qu'en tant qu'Église et chrétien, on ne veut pas rentrer dans le pragmatisme de la chrétienté moderne qui souvent est plus nonchalante que d'autres choses par rapport à l'adoration de Dieu. On veut garder Christ au centre et garder la raison de l'adoration, ce qu'elle doit être. On ne veut pas faire l'homme le centre de l'adoration, mais que Dieu le garde. Ça ne veut pas dire qu'on doit être drabe et plate. Parce que l'adoration de Dieu, elle est vivante. Elle est agréable. Il y a quelque chose de... C'est une célébration. On a la vie de Christ. Et je veux dire, si notre adoration, elle devient juste formelle, la forme, les apparences, ah, c'est pas plus agréable à Dieu, parce que là, c'est juste, on a l'apparence de la piété, mais on a remis ce qui en fait la force. Ce qui fait la force de l'adoration, c'est son authenticité par rapport à Christ. Est-ce que Christ est manifesté? Vous savez, il y a une façon d'être agréable à Dieu. On a déjà parlé, hein? C'est pas de faire toute la bonne liste, de la checklist chrétienne. Ah, j'ai fait ça. Non, ce qui fait que je suis agréable à Dieu, c'est Christ. Il y a une chose qui plaît à Dieu, c'est son Fils, c'est son sacrifice. Et moi, mon assurance, et ce qui, devant Dieu, ce qui fait que je me tiens avec une assurance et avec une pleine certitude de son approbation, il n'y a rien qui réside en moi qui me donne cette assurance. Tout est en Christ. Donc, quand je me tiens devant Dieu en lui, dans la conscience que je suis dans le bien-aimé, que je suis racheté, renouvelé, par le sang de Christ, par son œuvre et son Saint-Esprit qui habite en moi, c'est ça qui, devant Dieu, lui est agréable. C'est ça le sacrifice qui lui est agréable. Pour ça que je dis, ça doit rester toujours au centre de nos pensées, de nos cœurs, sinon on est centré sur l'homme. Puis on peut dire, ah, tu veux dire qu'on est centré sur l'homme-là, mais on peut être centré sur l'homme-là. Tu sais, sur le spectre d'être centré sur l'homme-là, entre... Le laxisme, puis le laisser-aller, puis le légalisme, puis le formalisme, il y a une grande différence, mais ça revient du pareil au même. L'homme est centre, et pas Christ. Les deux sont mauvais. OK? Donc, c'est la deuxième leçon, la troisième. Ah, c'est un texte que j'aime donc. Venez avec moi dans Ésaïe 6. Quel beau texte, glorieux. L'appel d'Ésaïe. Et on a une très bonne leçon à apprendre de ça ce matin. Ésaïe 6. Quand je dis Ésaïe 6, probablement que vous savez déjà de quoi on va parler. Il y a un cantique très connu là-dessus. En anglais, on dit Saint, Saint, Saint. En français, on dit Gloire, Gloire, Gloire. Ça vient de ces paroles-là d'Ésaïe. C'est l'appel d'Ésaïe. Et on va lire les versets 1 à 10. Donc, Ésaïe 6, verset 1. L'année de la mort du roi Ozias. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds, et deux dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre, ils disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Alors je dis « Malheur à moi, Je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, car ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur, disant, « Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? » Et je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Alors il dit, « Va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles, bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie pas de ses yeux, n'entende pas de ses oreilles, ne comprenne pas de son cœur, ne se convertisse et ne soit guéri. » On pourrait continuer. Je dis, « Jusqu'à quand, Seigneur? » répondit, « Jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne dans les maisons et que le pays soit ravagé par la solitude. » La sainteté de Dieu dans la vie d'Ésaïe. D'abord, on en apprend au verset 1 que ces choses sont arrivées à la mort du roi Ozias. Quand on comprend le contexte historique de ça, la mort du roi Ozias, c'était comme la fin d'une époque. La fin de l'âge d'or d'Israël. Bon, on peut dire l'âge d'or d'Israël, c'est avec Salomon. Mais Ozias, bon, il y avait eu, tu sais, il y a des choses qui se passaient. Puis là, les choses ont vraiment tourné pour le royaume de Juda au pire. Le bon vieux temps était fini. Ça vous fait penser à quelque chose? Le bon vieux temps était fini, puis les temps difficiles commençaient. Et là, c'est en plein là que Dieu appelle Ésaïe. Okay? Dans le pire temps possible, humainement parlant, pour avoir un ministère à succès. Puis d'ailleurs, il dit, ça ne sera pas un ministère à succès. Je veux dire, le cœur de ce peuple va être dur. Okay? Puis là, il dit jusqu'à quand? Puis bon, parce que le jugement s'en venait. Maintenant, une fois qu'on comprend ça, on comprend que Dieu était bien clair avec son prophète ici, avec Ésaïe. Tu ne vas pas être bien reçu, Ésaïe. Tu ne vas pas être reçu avec le tapis rouge et tout ça. Et donc, de quoi Ésaïe avait besoin dans un temps comme ça, dans des circonstances si difficiles, pour être capable de persévérer dans l'adversité, à quoi il allait pouvoir s'accrocher puis garder la foi? Dieu y avait donné juste avant qu'il l'appelle, il avait donné ce dont il avait besoin, une vision fraîche et puissante de sa sainteté. C'est à ça qu'il s'est accroché. Vous allez voir, je ne pense pas que c'est le seul. Donc là, on a ça comme début. Dieu a donné une puissante révélation de sa sainteté à Ésaïe. Tellement puissante que c'est unique dans la parole de Dieu. Hein? Puis juste en passant, quand ça dit là, que les pans de sa robe remplissaient le temple, là, à l'époque, les rois avaient des vêtements royaux où est-ce qu'il y avait une longue traînée, OK? Puis plus longue était la traînée, plus le royaume était grand. Fait que, un roi qui avait un grand royaume, il y avait une grande traînée, puis les gens disaient, oh, wow, ça c'est tout qu'un roi, il y a une grande traînée derrière. Ici, l'image, sa traînée, ça remplit tout le temple. Puis c'est ça l'idée, c'est que c'est un roi tellement grand, incomparable, je veux dire, c'est une image pour montrer, ça va au-delà de tout ce qu'il peut avoir ici sur terre, puis c'est un roi qui règne, puis ça le dit d'ailleurs, sur toute la terre. C'est où que ça dit, très élevé sur le pan de sa robe. Les séraphins se tenaient, l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. C'est ça ici, l'image, c'est ça qui monte. Okay? C'est ce Dieu-là grand, incomparable, unique, c'est ce Dieu-là qui s'est révélé à Ésaïe. C'est ce qui a rempli son champ de vision. Et donc, c'est une vision, on peut dire, quand même assez dramatique. C'était saisissant de voir ça. Et c'est quoi la première réponse d'Ésaïe? Selon ce qu'on voit ici, c'est pas ce que le monde aurait été. Le monde dirait, ah, pauvre Ésaïe, ça va mal, il a besoin de rehausser son estime de soi, il a besoin d'avoir une bonne image de lui-même. En fait, c'est tout à fait l'inverse qui est survenu. La vision de la sainteté lui a montré comment il était pécheur. C'est quoi sa première réaction? Malheur à moi! OK? Il a montré sa dépravité, son péché. Et c'est exactement ce dont il avait besoin parce que c'est la base de son appel. De voir comment lui, il est rien, mais comment Dieu est tout. C'est ça qui a fait qu'il a persévéré. C'est pour ça la grandeur de la révélation de Dieu, comment il est saint, ça a montré. Moi, Isaïe, il n'y a pas d'espérance et d'espoir en moi. Si je veux tenir bon quand le peuple il se rebelle et ne veut rien savoir, puis on regarde, c'est pas le seul. Jérémie, Ézéchiel, ils ont eu le même genre de situation. Et la réponse n'était pas en eux-mêmes à essayer de s'encourager en eux-mêmes, mais de garder les yeux sur celui qui est incomparable, puis qui règne, puis que bon, arriver n'importe quoi, il reste le roi de toute la terre. Tout le temple est rempli des pans de sa robe, toute la gloire est remplie, toute la terre est remplie de sa gloire. Pour ça, je dis, c'est la base de son appel. Il n'y a aucun espoir en toi, mon cher Isaïe, tout l'espoir est en moi. Et là, il y a quelque chose de significatif qui arrive ici, au verset 5, comme je l'ai dit, il dit « Malheur à moi, car je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un pays dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Ici, c'est bien significatif que la chose qui est mise en évidence, là, il aurait pu dire « Ah, je suis un pécheur, mais tu sais, ça parle, il y a d'autres passages dans la Bible, ça parle... Des voix tortueuses, puis de la tromperie. Mais là, ça parle des lèvres. Il dit, j'ai des lèvres impures, puis je suis au milieu d'un peuple qui a des lèvres impures. Pourquoi ça, c'est important? D'abord, à la lumière de la parole de Dieu accorde beaucoup de paroles aux lèvres, à ce qui sort de notre bouche. Matthieu 12 en parle, hein? La bouche parle de l'abondance du cœur. Romains chapitre 3, hein? Il y a une grande série, elle t'a dit, que sur leur lèvres est leur langue est un venin d'aspic et tout ça. Puis dans Jacques 3, hein, le fameux passage sur la langue, okay, c'est toute la même idée. L'ensemble du livre des Proverbes a beaucoup à dire sur les péchés des lèvres et comment avec notre bouche on peut pécher contre Dieu et contre les autres. Et donc, le péché des lèvres, mais n'est-ce pas une contradiction avec le fait, comme, n'est-ce pas, ça dit dans Jérémie que le cœur de l'homme est tortueux au-dessus de toute chose. Pourquoi il parle des lèvres? C'est pas un diagnostic superficiel. Je pense qu'il y a un point à venir. C'est pas parce que Dieu voyait pas le problème du cœur, mais Dieu voulait mettre l'accent sur ce qui sort du cœur. OK? Dans ce passage-là. Je crois qu'ici, la vision que Dieu voulait faire comprendre à Isaïe, c'est que sa sainteté a un grand impact sur ce qu'il dit et sur comment il le dit. N'est-ce pas, d'ailleurs, ce qu'il était appelé? Il était appelé à parler de la part de l'Éternel. Et donc, l'accent, c'était sur les lèvres ici. Et combien on a besoin, nous autres aussi, d'une fraîche et puissante vision, appréciation de la sainteté de Dieu pour le sanctifier par nos lèvres. Mes amis, pensez-y. Quand on pêche avec nos lèvres, c'est parce qu'on n'a pas une grande appréciation de Dieu. Quand on ne proclame pas Dieu de nos lèvres comme on devrait le proclamer à tous ceux qu'on rencontre, à toutes les nations, c'est parce qu'on fait pas un grand... Dieu n'est pas sanctifié dans nos vies comme il devrait. On n'a pas la grandeur de Dieu devant les yeux de notre foi. Et ça paraît sur nos lèvres. Pourquoi? Parce que notre cœur est éloigné de lui. Il y a un lien direct. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est dans Isaïe 29. Pourquoi? Il y a un lien direct entre l'état de notre cœur et ce qui va sortir de nos lèvres. Fait que quand il dit « j'ai des lèvres impures », il voyait son péché. Il voyait plus que juste « je dis des choses ». Il voyait que la manifestation de son cœur, il y avait un problème avec ça. Et je pense que c'est l'accent ici que Dieu voulait mettre par rapport à la vision d'Ésaïe parce qu'il appelait à proclamer qui Dieu est. Puis en passant, n'est-ce pas révélateur qu'Ésaïe est le grand prophète messianique de l'Ancien Testament? Si vous pressez comme un citron, le livre d'Ésaïe va sortir plein de Jésus-Christ, mes amis. Il y en a partout. C'est merveilleux. Puis on parle d'Ésaïe 53, qui est le plus grand chapitre de la Bible. Savez-vous, je lisais quelque chose dernièrement, frère Gosselin qui m'a donné ça, sur un juif qui est devenu chrétien. Puis là, il va voir un rabbin. Puis là, il parle d'Ésaïe 53. Savez-vous que les Juifs, dans leur lecture, parce que bon, c'est tout. Ils font Ésaïe 54 une journée, puis là, après ça, ils tombent, pouf, Ésaïe 50. Non, excusez, 52, puis après ça, 54. Ils lisent pas 53. Ils lisent pas. C'est tellement clair que ça parle de Jésus-Christ, puis l'œuvre expiatoire de Christ, ils lisent pas. Quelle tragédie, mes amis! Bon, ça, c'était juste une parenthèse. Maintenant, retournons à ce que je disais avec Ésaïe ici. Je vois ça dans la vie d'Ésaïe, comment la sainteté de Dieu est la base de son appel, comment c'est important. Et je vois ici, là, je me devance un peu, j'ai dit que je parlais de l'Ancien Testament, je veux juste par illustration vous parler de l'apôtre Paul. Je pense que l'apôtre Paul, on voit dans ses écrits, puis dans sa vie, puis dans ses écrits spécialement dans les deux épîtres aux Corinthiens, comment la vision qu'il avait de Dieu déterminait tout le reste. Paul, quand il prêche puis qu'il dit « Je ne suis pas allé chez vous avec les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais je suis allé avec une démonstration de l'Esprit puis je suis allé avec vous avec aucun autre désir que de prêcher Christ et Christ crucifié. » Je pense que la croix de Christ, qui est la pleine révélation de ce que Dieu est, de sa justice, de son amour, ça remplissait tellement son champ de vision que c'est juste de ça qu'il voulait parler. Voyez-vous, il y a un parallèle entre les deux. Ésaïe a vu la gloire de Dieu, c'est ce qu'il a proclamé. La gloire de Dieu en Jésus-Christ, dans l'Ancien Testament. Paul avait la même idée. Hein, Dieu s'était révélé à lui sur le chemin de Damas, il a été saisi par la grandeur de la croix. Puis Paul, le reste de sa vie, il proclamait ça. Pourquoi? Parce que ça remplissait son cœur, ça remplissait son champ de vision spirituelle. Voyez-vous comment c'est important d'être saisi par la sainteté de Dieu. Comment Dieu est unique, comment il est grand. Puis quand on est saisi de ça, en passant, je pense que ça mérite d'être dit que si on veut méditer sur la sainteté de Dieu, on doit méditer sur la croix. Regardez les grandes religions du monde, regardez les philosophies, les mouvements politiques, regardez ça de n'importe quel bord, il n'y a rien. Rien qui va à la cheville de se comparer avec la croix du calvaire. Tu sais, réglé, j'écoutais quelque chose sur le problème du mal dans le monde. C'est un méchant problème, ça. Comment tu règles ça? Puis, vous savez quoi? Il y a trois choses. On va parler de ça dans des prochains messages, mais trois choses que instinctivement, trois questions qui surgissent dans le cœur de l'homme, de l'humain, face à la souffrance puis au mal. Pourquoi moi? Où est Dieu? Puis, est-ce que je peux supporter ça? Je peux-tu passer au travers? OK? Puis, la deuxième, là, où est Dieu? Savez-vous que même un athée va se dire ça? Quelqu'un qui dit qu'il ne croit pas à Dieu, quand il est en souffrance, il va blâmer Dieu pareil. Hey, excuse, sois consistant, tu ne crois pas à Dieu, blâme-le pas. Blâme l'univers, blâme les roches, mais blâme. Si Dieu n'existe pas. Mais ça montre comment qu'on est l'humain, on a la conscience, on a la pensée de l'éternité. C'est, n'est-ce pas un clin d'œil de Dieu qu'un athée, quand il y a des problèmes, il blâme Dieu? Mais il y a quelque chose de tragique là-dedans. Puis je vais vous en parler plus la semaine prochaine. Je suis en train de préparer là-dessus pour les deux prochains messages, Dieu voulant. Mais savez-vous qu'à Auschwitz, il y a des gens qui sont rentrés là athées. Soit qu'ils sortaient en croyant en Dieu, ou qu'ils sortaient les pieds devant, qu'ils s'enlevaient la vie. Parce que si on n'a pas Dieu et on n'a pas d'espoir, c'est quoi la raison de vivre? Amen. La vision de Dieu, de sa sainteté, c'est la raison de vivre. Mais pas juste de subsister, de vivre avec la plus grande des causes, le faire connaître ce Dieu-là. Si, pour moi, je n'ai pas d'autre pensée que de prêcher Christ et Christ crucifié, que j'ai cette vision spirituelle de la croix qui remplit ma vie, ma pensée, mes amis, ça va tout changer pour ma vie, là. Savez-vous, je pense, une grande erreur qu'on a faite, qu'on n'a pas sanctifié Dieu au milieu de nous autres. On a prêché Christ plus comme quelque chose à faire, un plan auquel on doit répondre au lieu d'une personne, de Dieu qui est venu pour nous réconcilier avec lui. C'est ça, prêcher la croix. C'est prêcher Dieu le Créateur qui vient vers la créature qui l'a rejetée, puis qui lui tend les bras pour que la créature soit réconciliée avec lui. On prêche une personne, on prêche Christ crucifié, ressuscité, qui donne la vie à quiconque s'approche de lui par la foi. Ce soir, on va parler de Chorazim, de Bethsaida, puis de Capernaum. Puis je donne juste un avant-goût. Savez-vous c'était quoi le grand péché? Pourquoi Jésus dit que son pire que Sodome et Gomorre, que si les miracles avaient été faits au milieu d'eux, au milieu de Sodome et Gomorre, il y a longtemps que ce serait repenti. C'est quoi la gravité? C'est que Dieu avait révélé beaucoup plus à Bethsaida, à Chorazine, puis à Capernaum. Dieu lui-même est allé au milieu d'eux. Dieu fait chair, les a visités, puis a fait des miracles pour montrer qu'il est bien Dieu, puis ils ont rejeté ça. Autrement dit, ils ont péché contre une grande lumière. Et c'est la pensée avec laquelle je veux terminer ce matin. Il y a un lien avec ce soir. Je termine avec ça ce matin. On parle de la sainteté de Dieu. Et de Dieu qui va être sanctifié au milieu de son peuple. Certainement, on est loin d'être une église parfaite, puis certainement, on est loin de sanctifier Dieu comme on le devrait. Ça devrait être une prière de nos cœurs. Dieu, sanctifie-toi. La croix, la rédemption, ta grâce, que ça soit évident au milieu de nous autres. Pas juste le dimanche quand on se rassemble, mais dans nos vies. Mais voici aussi une autre pensée. On n'est pas parfait, puis on ne le fait pas parfaitement, mais si vous êtes ici, puis vous venez régulièrement, Dieu vous donne de la lumière. Vous êtes bénis d'avoir Dieu qui se révèle à vous. Dieu qui vous montre qui il est, qui vous montre comment être réconcilié avec lui. Donc, si vous êtes ici, puis vous n'êtes pas encore dans le troupeau de Jésus-Christ, vous n'êtes pas encore lavé dans le sang de l'agneau, mes amis, j'aimerais vous dire, vous péchez contre une grande lumière. Et vous êtes pire que celui dans la rue qui sac, qui se pique, puis qui boit, parce que si cette personne-là n'a pas entendu, « Ah, c'est un pécheur, puis il veut dire, il est dans le trouble, là. » Mais vous, vous êtes pire parce que Dieu vous révèle qui il est, puis vous résistez contre la grâce de Dieu qui va à vous. Pensez à ça. Adulte, enfant. Et voici comment j'aimerais qu'on amène tout ça devant le Seigneur. Ceux qui ne sont pas familiers avec comment on termine le dimanche matin, puis le dimanche soir aussi. Quand je termine, je prie, puis je vous donne l'occasion de prier. Comment le Seigneur dirige? Si vous voulez prier, vous priez. Si vous ne priez pas, vous ne priez pas. Mais voici comment j'aimerais amener le défi ce matin. L'appel. Comment je pense que le Seigneur veut qu'on réponde à ce qu'il nous a dit ce matin? Vous savez, quand Dieu se révèle à nous, puis qu'il est sanctifié au milieu de nous autres, la réponse n'est pas compliquée. C'est comme Ésaïe, malheur à moi. C'est comme Paul, Seigneur, que veux-tu que je... C'est juste de s'humilier puis de tomber. Je veux dire, il n'y a pas d'argument, il n'y a pas de sagesse. Devant l'Éternel, là, je veux dire, on tombe à terre et on dit, Dieu, comme tu es grand, et moi, je tombe devant ta face, je t'adore. Je pense que si on comprend qui Dieu est, c'est le genre de réaction qu'on devrait avoir. Et si on ne l'a pas, Dieu, révèle à moi la grandeur de ta sainteté, la grandeur de qui tu es. Je ne veux pas être irrévérencieux, je ne veux pas prendre pour acquis un grand Dieu comme tu es. Je ne veux pas juste être habitué, traité, c'est ça, être profane, traité avec comme ordinaire ce qui est saint, ce qui est incomparable. Mes amis, qu'on ne s'habitue jamais à la grandeur de notre Dieu, qu'on ne s'habitue jamais à la grâce et la gloire de la croix du calvaire, puis du tombeau vide. Mes amis, toutes nos vies, ça doit consumer nos cœurs. Puis si ce n'est pas le cas, c'est parce qu'on s'est refroidi. On peut demander à Dieu. Allons à Dieu avec ça. Puis si vous n'êtes pas sauvé, vous pouvez aujourd'hui savoir que Dieu a quitté son ciel puis est venu pour que vous soyez réconciliés avec lui. C'est un Dieu tellement grand qui a fait ça. Puis ne mettez pas de côté cette décision la plus importante de votre vie, d'être réconcilié avec Dieu. On va prier. On te remercie, Seigneur, parce que tu t'es révélé à nous en Jésus-Christ. Et merci, Seigneur, que pour tous tes enfants qui sont ici, tu te révèles à nous de jour en jour, à travers ta parole, ton esprit, la grandeur de ta personne, Seigneur. Et on l'a vu dans le message, on a tendance à ne pas être au même diapason que toi. On te trouve des fois trop sévère dans tes jugements. Des fois, on n'apprécie pas la grandeur de ta bonté, de ta sainteté, de ta justice. Seigneur, ouvre nos yeux, on te prie, sur la gloire qui est révélée à nous en Jésus-Christ. Tout ce que tu nous révèles en ton Fils. Seigneur, on te prie aussi que s'il y en a ici qui ne sont pas encore sauvés, ils ont peut-être répété une prière, mais ils n'ont pas la vie de Jésus-Christ. Ce n'est pas authentique. Seigneur, qu'aujourd'hui, tu puisses les visiter, te révéler à leur cœur, révéler ton Fils Jésus-Christ à leur cœur, les convaincre de péché, de justice et de jugement. Seigneur, on s'en remet à toi, on est totalement dépourvu sans toi, Seigneur. Mais comme on te loue, comme on célèbre ton grand nom du fait que tu t'es révélé à nous, que Seigneur, tu nous as tout pleinement donné en ton Fils Jésus-Christ. On veut répondre à ça ce matin, avec louange, avec action de grâce, mais aussi avec humilité, voyant que oui, on est un peuple au cou raide, un peuple avec des lèvres impures. Mais Seigneur, merci que tu es ce Dieu qui purifie, qui sanctifie, ce Dieu qui restaure. Ah, comme on te loue ce matin pour ces choses. Au nom de Jésus, notre grand et merveilleux Sauveur. Amen. Amen. Alors, si vous